Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le 101.5 de Radio G. Dans quelques instants, on va vous basculer le meilleur du manga, de la BD franco-belge et du comics directement dans vos oreilles par le truchement des ondes radiophoniques. Au programme de ce soir, des boules, du polar et d'autres trucs. Mais tout d'abord, attention, générique.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb. Il est 19h et quelques minutes et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Je le rappelle, si vous ne connaissez pas l'émission, aussi on parle de BD, de manga, de comics et d'autres trucs des fois qui sont en rapport. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi ce soir deux personnes, Luc qui est devenu un habitué de la case de Seb et qui va être là avec nous toute la saison.
Exactement, salut Seb.
Salut, salut à toi Luc. Et puis Richard qui lui a décidé de transfuser en fait de l'émission Les Voix du Scénarium. Tu nous as fait une chronique sur les fictions audio.
Tout à fait.
Et puis du coup, tu t'es dit, tiens, j'irais bien faire un tour dans la case, donc écoute, bienvenue.
En vrai, je pense que j'ai pris goût à te suivre un petit peu dans ton aventure, donc je vais aller, viens.
Attention, hein, tu me suis que dans les émissions radio.
Oui,
sinon, ça devient un petit peu glauque.
Surtout qu'on va parler de bulles et de boules. Donc...
Ouais,
on va
parler de...
encore.
Il faut que je retrouve mon extrait de boules, vous allez voir. Je peux même commencer là-dessus si vous voulez, si j'arrive à retrouver l'album qui est quelque part là-dedans. Je n'ai qu'une... Ah, il est là. Je voulais vous parler des boules d'Antoine Bréda. Je ne sais pas si ça vous parle.
Non, mais il nous faut du contexte là par contre.
Vous allez voir, c'est un petit peu difficile de vous mettre du contexte sur cet album-là. C'est un album qui est publié aux éditions Six Pieds Sous Terre. L'histoire est assez simple, c'est l'histoire d'un homme qui va tourner un film amateur. Mais ça plaît pas beaucoup à sa chérie. Bon, pourtant, c'est un film de science-fiction. Sauf que c'est un film de science-fiction un petit peu genre humanoïde associé, métal hurlant. Mm-hmm. Il y a du sexe, il y a plein de trucs.
C'est vivant.
C'est très vivant. Et du coup, bah lui, il est censé jouer certaines scènes qui ça fait pas du tout plaisir à sa chérie. Donc, il lui a caché un petit peu ça, mais... entre conflits, entre amour, et puis je t'aime moi non plus, et si tu fais ça, je te quitte, et en fait je te quitte pas, mais bon, le refais pas. On essaie de suivre ce personnage qui prend pleine tête en fait toute cette histoire un peu complètement rocambolesque. Alors mm-hmm. C'est une histoire d'un grand guerrier extraterrestre qui va sur une planète où il domine les gens avec des scènes qui sont décrites. Pas explicitement non plus, hein, parce que ça reste de la BD, on nous les montre pas, mais c'est complètement barré, c'est un film... Ouais, c'est un film de SF porno complètement vrai. Vraiment, quand j'ai vu le truc au départ, les graphismes qu'on a me font vraiment penser aux humanoïdes associés et à tous la grande époque métal hurlant. C'est plutôt intéressant. Et en fait, on se rend compte que ce film-là, il le fait pas juste par plaisir ou juste pour faire suer sa compagne. Il a une raison de le faire. Il le fait avec quelqu'un qu'il connaît bien, qui a aussi une bonne raison de le faire, à savoir honorer la mémoire d'un de leurs potes qui a écrit ce film avant de décéder. Mmh. Et du coup, on va vraiment suivre son évolution morale, tout son questionnement. Est-ce que je devrais le faire ou est-ce qu'au contraire, par amour, je devrais plutôt ne pas en parler? Et toute la progression se fait vraiment de manière assez... on nous garde dans le flou le plus longtemps possible. Et du coup, c'est hyper hyper sympathique à découvrir. C'est bourré de truculence. Ça sent le film de SF fait avec trois bouts de ficelle. On va envelopper de papier alu la tour d'un immeuble parce que ça fait science-fiction.
Oui, c'est Michel Gondry, le retour.
Complètement. Et c'est ultra bien. voilà, là, on a exactement sa copine qui lui dit sur le truc, elle claque la porte et lui dit un film de boule, putain. Voilà. Donc, au départ, c'est très perturbant parce qu'on sait vraiment pas où on va. On sait pas ce qu'on lit parce que tu dis, mais pourquoi il fait ça? Et il y a vraiment plein de choses. Il y a plein de passifs. Et ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que il va vivre émotionnellement et physiquement des choses un peu qui vont le perturber jusqu'à un petit twist final à la dernière case. Je peux pas vous le révéler parce que ça casse tout. Mais faut le lire vraiment. Ouais. Le twist final vaut vraiment son pesant de cacahuètes. C'est vraiment trop trop bien.
Tel que tu le décris, hein. Ça, c'est attirant comme BD, mais quand tu rajoutes après l'éditeur, Six pieds sous terre, on se dit nécessairement, c'est pas rien, parce que Six pieds sous terre, ils nous ont habitués à une production qui est quand même d'excellent niveau. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Donc, quand tu fais le pitch, on se dit, est-ce que c'est bien sérieux? Quand on connaît l'éditeur, on se dit, si, oui, c'est sérieux.
Il y a un sérieux, il y a un fond. Et ça raconte vraiment quelque chose au-delà de ça, en fait. Mm-hmm. C'est presque le making-of d'un film qui n'aurait jamais dû exister et qu'on a envie de voir, en fait. C'est presque le film qu'on se passait en VHS, que tout le monde avait entendu parler, mais personne n'avait jamais vu. Et là, on a le making-of de ce film-là. Mm-hmm. Et c'est vraiment ultra bon. Donc, moi, je vous le conseille vraiment.
Donc, le titre
C'est Les Boules, d'Antoine Bréda. Et c'est aux éditions Six pieds sous terre. C'est sorti dans le courant de l'été.
Je suis désolé, mais depuis le début, je combats intérieurement pour ne pas faire une blague.
Mais vas-y, fais-toi plaisir.
C'est une blague d'un de mes profs de français, donc ça remonte à 10-15 ans maintenant. Mais bon, après tout, c'est pas mal de faire un film d'SF et de boules. Après tout, il y a bien Pierre Boulle qui a fait...
Un film de SF.
De SF. Non, qui a fait La planète des singes.
La planète des singes. Ah oui.
Et effectivement.
Bon, ça va, ça reste propre.
Ça, ouais. Donc,
objectivement, tu peux rester dans l'émission.
Ok, merci.
Bon, bah écoute, est-ce qu'on enchaîne de boule à bulle? Et puis on reviendra au boule après.
Allons-y, soyons fous.
Attention, attends, faut que je te sorte ton petit générique. Hop, qui est ici, le chronique Bulle de Noir.
Bulle de Noir. Quand le polar s'écrit en BD.
Eh bien, écoute, merci Seb de m'inviter ou de m'accueillir à nouveau dans cette émission qui quand même pourrait déraper assez facilement vu la qualité des invités que tu as qui se permettent des plaisanteries. D'un goût limite, mais qui s'en sortent bien. Enfin, voilà, La planète des singes, des boules, Pierre Boulle, tout ça. Bon. Moi, je vais rester... moi, ça va être pas les boules, mais les bulles. Et les bulles de noir. Et je t'avais promis... Donc, moi, je t'ai promis une série autour du polar en BD. Et avec cet album, c'est chez l'un des maîtres du roman noir que je t'emmène, toi et tous les auditeurs, un seul nom, Simenon.
Eh ben oui, tu vas nous parler d'une énième adaptation d'une des aventures de Maigret, c'est ça?
Perdu. C'est plutôt vers les romans durs de Simenon que je t'emmène et du côté d'une série dans laquelle se lancent les éditions d'Argo. Un premier roman vient d'être publié en collaboration avec le fils de Simenon, John. Il s'agit du Passager du Polar Lys. Une histoire bizarre découpée en deux actes dans la BD. Acte 1, on est à Paris, sur les grands boulevards, du côté de la coupole. Une femme, Marie Baron, petite provinciale, vendeuse dans un magasin rue de Clichy, se fait aborder par un homme, Rolf, qui l'entraîne à la rencontre d'un groupe d'amis. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est quasiment la reprise de la scène des Enfants du Paradis quand Frédéric, joué par Pierre Brasseur, accoste en pleine rue Garance, joué par Arletty. Oui.
C'est le prénom de ma fille, donc forcément ce prénom me parle. Désolé de t'avoir coupé.
Ça boit beaucoup et toute la fine équipe fait la tournée des Grands Ducs, une étape dans un cabaret pour se procurer du saké bon, autrement dit de l'héroïne. Puis tout le monde se retrouve dans un appartement. Marie a trop bu. Elle est malade, elle se réfugie dans la salle de bain. Rolf la rejoint et lui propose un remontant. En fait, une injection d'héroïne. Et c'est l'overdose. Marie est retrouvée morte par la concierge et la police enquête. Acte 2, le port de Hambourg, le Polar Lys est en train d'être chargé pour son voyage vers la côte norvégienne. Dès le préambule de l'acte 2, on est prévenu. Rien ne va. Le troisième officier est en retard. Il arrive glauque. Il a sans doute fait la fête la veille. Le capitaine Petersen l'examine. Son uniforme est superbe, mais certainement trop léger pour affronter le froid du Grand Nord. Nouvel incident, il faut recruter un chef mécanicien et c'est un ancien taulard qui est retenu. Et comme le dit le capitaine avec superstition, jamais 203. Et jamais 203, c'est le cas puisqu'un câble se rompt et un tracteur qui était attaché tombe dans la cale. Malgré tous ces événements, le Polar Lys part à l'heure, c'est la fierté du capitaine Petersen. Mais ça ne va vraiment pas. Il semble maintenant qu'il y ait un passager clandestin caché dans la cale. Et puis de l'argent disparaît, puis des ampoules de morphine. Parmi les quelques passagers, Katia Storm, une femme superbe qui mène la grande vie, et puis le mystérieux Arnold Schöttinger, ainsi que le chef d'entreprise Bill Evgen. La tension monte sur le Polar Lys et tout le monde est soupçonné. À Cuxhaven, le conseiller de police von Sternberg monte à bord. Il est à la recherche de l'assassin de Marie Baron. On le retrouve le lendemain matin de son arrivée, assassiné dans sa cabine. Du pur Simenon raconté par le capitaine Petersen, un homme de la mer mais aussi un homme de la fatalité qui ne croit pas au hasard.
Alors est-ce qu'on est vraiment bien dans un Simenon ?
Toujours chez Simenon, les romans sont courts et on est bien chez Simenon. Et les adapter en bande dessinée relève du challenge. Pour ce projet au long cours, les éditions d'Argo prévoient une collection qui tournera autour des romans durs de Simenon. C'est Christian Caillot qui est au dessin et à la couleur et José-Louis Boquet qui est au scénario. On est dans l'école franco-belge, le dessin est soit à l'aquarelle, soit au crayon ou au pastel et ça nous plonge immédiatement dans l'imagerie qu'on se fait de l'entre-deux-guerres. On reconnaît parfaitement le trait de Christian Caillot. Ses personnages portent toujours en eux une forme de mélancolie. Et il réussit parfaitement l'exercice incontournable d'une vraie BD, les dessins pleine page. Quant au travail scénaristique de José-Louis Boquet, il est impeccable d'efficacité. Il réussit à nous emmener dans une intrigue complexe, une énigme en vase clos, avec peu de protagonistes, où quasiment tous sont suspects à un moment ou à un autre. La complexité du roman de Simenon tient à l'épaisseur des personnages qui ont tous un background et qui s'inscrivent d'une certaine manière, eux aussi, dans une forme de fatalité. Il sait nous la faire comprendre juste à l'aide de dialogues. Mais la difficulté réside aussi dans l'écriture de Simenon. Il se méfie des adjectifs superflus. Cette économie de moyens, Caillot et Boquet arrivent à la transcrire avec une réelle fidélité. Tous deux réussissent aussi à nous faire vivre le périple du Polar Lys, de port en port, qui se ressemble étrangement, nous font saisir la haute conscience et l'obsession de la ponctualité du capitaine Petersen, parce que le Polar Lys ravitaille les villes de la côte norvégienne, et sans lui, pas de victuailles, pas de courrier, rien.
On a l'impression qu'il y a du vécu là-dedans.
Ben oui, il y a du vécu, parce que Simenon, il l'a fait le voyage sur le Polar Lys avec sa femme dans les années 30. Donc il le connaît ce bateau.
Mais d'où est venue cette idée étrange pour les éditions d'Argo de publier un roman un peu obscur de Simenon du coup?
L'idée elle vient à la fois de John Simenon qui est le fils et c'est une collaboration avec ses éditions. Le John Simenon, il avait envie d'adapter les romans que Simenon appelait ses romans durs. En fait, romans durs, il faut comprendre que pour Simenon, c'était des romans qui étaient durs à écrire, contrairement à la série des Maigret. Le passager du Polar Lys est son premier vrai roman dur, mais avant, Simenon a écrit des dizaines de petits romans. Et il faut savoir qu'il avait un contrat, par exemple, avec les éditions Gallimard, qui l'engageait à écrire 4 Maigret par an.
Alors, je sais pas combien il y en a, une bibliothèque où il y a une grosse étagère.
Oui, c'est énorme.
Après ce premier volume, du coup, est-ce qu'on sait quel sera le prochain?
Alors oui, on sait déjà le titre du prochain, c'est « La neige était sale ». Et cette fois, c'est Isler au dessin et Fromental au scénario qui vont collaborer. Les éditions d'Argo, faut le dire, ont fait un choix de qualité. Le passager du Polar Lys se présente avec une jaquette qui reprend un dessin superbe. En dessous, l'album est d'un bleu outre-mer profond avec un bateau qui sort du cadre, laissant traîner un panache de fumée. L'impression est faite sur un papier couché mat crème qui sert au mieux les dessins de caillots. Et à la fin, il y a un cahier qui remet le Polar Lys et le roman dans son contexte. Ça, c'est de la belle ouvrage et au juste niveau de l'immense auteur qu'est Georges Simenon. La BD s'intitule Le passager du Polar Lys. Elle est signée Caillot et Bocquet d'après le roman de Georges Simenon et elle est publiée par les éditions d'Argo.
Eh bien, en tout cas, tu vois, je suis en train de la parcourir en même temps et non seulement la jaquette est sublime, mais ça donne presque envie de l'ôter pour avoir juste la pureté de l'indigo, tu disais tout
oui,
à l'heure.
Oui, de la couverture en dessous.
Très, très belle.
Oui, c'est un objet magnifique, enfin vraiment magnifique. Il y a un travail extraordinaire qui a été fait. Moi, je suis tombé à la renverse quand je l'ai lu. Quoi. Voilà, je suis passionné par Simenon. Je suis toujours inquiet par les adaptations. Là, c'est un pari vraiment relevé.
Eh ben, bonne lecture. Bonne lecture, profitez bien. Je sais pas si, alors j'ai pas vraiment fait de recherche, mais il y a une hype sur Simenon en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs éditeurs qui sortent des choses sur Simenon.
Ouais, c'est possible. J'ai pas suivi complètement. En tout cas, les éditions d'Argo, ils mettent le paquet. Ils ont sorti des cahiers spéciaux. Ils ont vraiment.
Ouais, ils font plaisir.
Il y a vraiment un gros travail qui est fait, qui est assez étonnant parce que la production semble vraiment très importante. Quand on regarde cette jaquette, le graphisme, le dessin, la couleur, tout, c'est vraiment un boulot considérable et ça réconforte de lire de la BD.
C'est un vrai risque éditorial à prendre,
oui.
En fait.
Oui, 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 tout à fait. Enfin, oui, oui, moi je suis d'accord. Hein. Je suis complètement d'accord. Mais, comment dire ça? Ça justifie à un moment un projet de cette nature-là. Il est justifié par le résultat. Il y a aucun doute sur la pertinence de ce projet-là. Ouais.
Ouais, on sent qu'il y a vraiment de la matière. Il y a plein de choses dedans. Donc ouais, c'est vraiment cool. Enfin, Richard, je sais pas ce que t'en penses, que tu nous regardes en parler depuis tout à l'heure, mais
bah effectivement, je vois l'ouvrage qui est
avec le bateau tout seul. C'est sublime. Ouais. Je trouve.
Alors par contre, je suis pas très très maigré, je vous avouerai.
Mais ça n'est pas justement.
Non, l'inverse. Je suis pas très très
Polar.
Simenon.
Non.
Polar.
Non.
BD.
Mais là,
Alors.
Mince, excusez-moi, j'ai perdu le fil.
Bateau.
Alors, en fait, j'étais. Moi, je suis comme on t'a expliqué, Luc. Moi, je suis plus fiction sonore.
Oui.
Et quand j'ai entendu Simenon, j'ai fait. Mais ça me parle dans la fiction sonore et tout ça.
Mm-hmm.
Il faut savoir que un de ses fils a adapté Signifurax en film.
Oui.
Et donc ça m'a parlé, j'ai fait mais c'est bon, okay, j'ai compris. Non mais par rapport à la hype qui est en train de faire, j'ai l'impression que c'est pas que dans la BD et Simenon. Il y a pas longtemps, j'en parlais avec ma conjointe, je trouve ça fou qu'il y a une hype de grands enquêteurs comme Hercule Poirot.
Hercule Poirot qui est un grand revival, ouais.
Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. Bah, il y a certainement besoin d'aller. En fait, moi, je pense que ça vient aussi le besoin d'aller aux sources, c'est-à-dire. Malgré tout, qu'on le veuille ou non, Simenon, Maigret, Hercule Poirot, c'est des valeurs sûres. Hein, on se trompe pas quand on touche à ces romans-là. Ils ont fait leurs preuves depuis des dizaines d'années. On est toujours surpris de la qualité d'écriture. Moi, j'ai un faible, hein, vraiment un grand faible pour Simenon, parce que c'est un des auteurs qui réussit à émouvoir avec peu de mots. Ses phrases, c'est un sujet, un verbe, un complément. Point. Il n'y a rien de plus, pas de superflu. Sauf qu'avec ces quelques éléments-là, il arrive à nous embarquer dans ces histoires. Et moi, je le dis toujours, moi, quand j'ai besoin de me ressourcer en lecture, puisque je lis beaucoup, je lis énormément, quand j'ai besoin de retrouver mes équilibres, mes bons équilibres, je prends un Simenon, je le lis et je me dis, ah, c'est ça la littérature, voilà. Et je suis remis à zéro. J'ai fait un recette.
D'accord. C'est en gros, c'est ton maître en fait. C'est ce qui te permet
un des maîtres. Il y en a beaucoup.
C'est ce qui te permet de remettre tout à niveau en fait.
Exactement.
C'est un étalonneur.
Voilà, c'est ça.
Exactement. J'imagine que il va être surpris de que enfin il serait surpris de qu'on le traite comme ça. Mais oui, c'est quand on parle littérature, la littérature, c'est des mots qu'on met, et c'est pour raconter des histoires. Et à un moment donné, trop de fioritures tue complètement la poésie. C'est l'économie de moyens qui doit primer. Et sinon, il est passé maître en la matière. Mais il est passé maître parce qu'il a rédigé une somme de livres. On n'imagine pas le volume de bouquins qu'il a pu écrire. Pendant un temps, il écrivait un bouquin par mois. Mais ça lui a permis d'acquérir un style qui est vraiment tout à fait particulier et pour moi fantastique.
Okay. On va s'arrêter là avec Simenon, hein, parce que sinon on peut faire une émission consacrée exclusivement à Simenon.
Ouais.
Je vous propose de faire une petite pause musicale. Juste avant, je te fais un petit teasing, Luc, puisque dans 15 jours, je te parlerai d'un manga en 5 tomes qui a très bien distillé l'art du polar en s'appuyant sur des auteurs qui ont fait leur preuve. Ça s'appelle Meurtre dans le Décagone et c'est excellemment bien. Ah. Mais j'en parlerai dans 15 jours.
Super. Ben, on va faire un match. On va faire
une bataille de polar.
Moi, je te parlerai de ça la semaine prochaine.
C'est quoi ça?
Dans 15 jours.
Un certain Danzeri.
Daneri. De Carlos Trillo et Alberto Breccia.
On dirait Aznavour.
À l'intérieur, on n'est plus chez Aznavour. Hein.
Ah ouais, des noirs très noirs.
Oui, ouais. Mais on en parlera dans 15 jours.
On va se faire une bataille. Vous pourrez voter 50-50 et tout. je vous propose un petit moment de calme, justement, avant de repartir vers une série de livres un petit peu plus touchants. Je vous propose d'écouter une chanson toute simple qui s'appelle Une colombe de Jeanne Chéral. On se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
D'olivier, et l'on voudrait qu'avec je parte balayer les saletés des hommes, les cendres après les bombes, les hivers d'uranium. Moi je ne suis qu'une colombe, une colombe qui aimerait qu'on lui fiche la paix, la paix. Moi qui rêve pour tout trône d'un chêne de cour d'école, me voici une icône, me voici un symbole. Et le monde m'agite sous l'œil des hécatombes. On me voudrait magique, je ne suis qu'une colombe. Une colombe qui aimerait qu'on lui fiche la paix, la paix. Une colombe qui voudrait qu'on lui fiche la paix. Pour un être de plume aux lignes délicates, c'est le poids d'une enclume qu'on attache à mes pattes. Laissez-moi m'envoler loin du sol qui me plombe, loin des drapeaux levés. Je ne suis qu'une colombe, une colombe qui aimerait qu'on lui fiche la paix, la paix. Une colombe qui voudrait qu'on lui fiche la paix. De l'air, de l'air, donnez-moi de l'air, du ciel, pour porter mes ailes, des ailes, oui des ailes, pour siffler en l'air, fier, si fier. On dessine dans mon bec une branche d'olivier, et l'on voudrait qu'avec je parte balayer les saletés des hommes, les cendres après les bombes, les hivers d'uranium. Moi, je ne suis qu'une colombe.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'est toujours la case de Seb qui vous parle de BD, de comics et de manga. Et on va vous parler d'une thématique peut-être un peu pas trop rigolote, mais quand même on peut en rire un petit peu. Attention, question piège. Est-ce que vous pouvez me parler du cancer du sein, les gars ?
Pas du tout.
Eh ben, vous savez que ça peut impacter aussi. Alors je crois que c'est 3 à 4% des hommes qui peuvent avoir un cancer de la poitrine.
D'accord.
Effectivement.
Donc on n'est pas à l'abri non plus. Et là je voulais vous parler de manière un petit peu humoristique d'un sujet plutôt grave. On arrive sur Octobre Rose qui justement va être consacré au cancer du sein. Et là j'ai un petit album de chez XP Éditions qui a été dessiné par l'illustratrice qui s'appelle Ever Marie et qui s'appelle La Boule au Nichon. Alors pourquoi La Boule au Nichon? Parce que souvent en fait un cancer ça commence par une boule qu'on détecte dans le sein et qui souvent est une tumeur. Grave, pas grave, on va voir. Alors c'est une BD, alors je sais pas à quel point elle est autobiographique, mais l'autrice a eu cette problématique-là, s'en est servie pour essayer de faire des traits d'humour, choses qui doivent pas être très très simples quand on se découvre un cancer. Et ben on va suivre l'épopée en fait de ce personnage qui va un matin se découvrir un cancer du sein. Et qui à 40 ans, bah c'est pas trop quoi en faire de ce cancer du sein. Et du coup, elle va, on va suivre tout son parcours médical, toujours avec humour. Alors c'est sous forme de petits strips, c'est des strips en 4 cases ou voire un petit peu plus, mais ça marche très bien. On apprend des choses, on se marre, il y a pas de pathos, il y a des trucs qui sont vraiment fondards. Comme quand tout le monde, quand vous allez voir un médecin et que vous parlez à d'autres personnes de ce médecin-là, les gens disent « Ah, il est super ce médecin-là !» Et ben là, en fait, ça a été dessiné avec des nanas, comment on appelle ça, comme au Carnaval de Rio avec beaucoup de plumes qui font « Il est super le docteur Barbier !» C'est complètement barré. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est un sujet qui est quand même plutôt grave, dont on n'ose pas forcément parler et... Là, on en parle vraiment de manière très libre, avec un dessin qui fonctionne. C'est un dessin qui sert plus pour l'humour quand même. On n'est pas dans la grande gravure de dessin, mais ça marche très bien, c'est plutôt drôle. On a des gags qui fonctionnent très bien et on suit vraiment ce parcours, avec des petits moments un peu tristes quand même, parce que on suit ses états émotionnels, même si elle a l'air d'avoir bien réussi à prendre le dessus. C'est quand même pas super simple.
Et l'humour est déjà dans le titre, hein, parce que La Boule au Nichon, c'est La Boulot, B-O-U-L-O, et Nichon. Donc, c'est quand on lit le titre, moi, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et je trouve que c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça génial. Hein, j'ai pu le feuilleter là un instant. Et je trouve que le projet est vraiment, alors effectivement, il tombe bien avec Octobre Rose qui va commencer, et qu'on n'en parle pas assez, et qu'on ne dédramatise pas assez d'une certaine manière, et ça participe de la dédramatisation de la maladie et de ce que c'est, et puis ça permet d'en parler. Enfin, moi, je crois que c'est vachement important, c'est qu'on puisse en parler, justement avec ce titre provocateur. Moi, je trouve que c'est bien parce que cancer du sein, enfin bon, tout ça, reprendre le mot nichon, je trouve que c'est percutant, violent, parce qu'il y a tous les attributs érotiques derrière, mais il y a la réalité, effectivement, de ce qui impacte une femme. Et moi, je trouve ça génial. Enfin, le projet est vraiment génial, quoi.
Et puis sous les dehors de l'humour qu'on va avoir dans l'ouvrage, on a aussi une certaine réalité du terrain, la difficulté du parcours médical, le coût de tout ça qui est quand même très très impressionnant. Alors je sais pas si tous les tarifs sont véridiques, mais le but c'est de nous faire sensibiliser au fait que ça coûte cher et que c'est pas forcément hyper bien remboursé, que il y a certaines étapes médicales qui sont proposées d'une manière qui se laisse poser de questions. Elle vient de se faire enlever un cancer du sein, une tumeur, et on lui dit, on vous fait la chimio, mais c'est parce que vous êtes jeune. Mm-hmm. C'est-à-dire que si tu étais vieux, la chimio, tu n'y aurais pas eu droit.
C'est quoi, comment dire ça? Je pense que c'est
Alors, moi, j'ai pas lu la BD, donc je peux pas avoir d'avis dessus. J'ai un avis sur le projet, et je trouve que c'est bien. Le problème de la réalité de cette maladie, elle est tellement compliquée pour connaître des gens qui ont été confrontés et qui l'ont vécu, et pour l'avoir avoir accompagné ces gens d'assez près, de même très près d'ailleurs. C'est compliqué, c'est vraiment un spectre très large. Moi, je reste au niveau de l'idée du projet. Après, sur les contenus, des fois, les médecins effectivement sont maladroits. Je pense à un podcast qui est encore trouvable sur France Inter, qui doit s'appeler Ma vie avec un cancer, qui est une jeune femme qui a fait un podcast, qui est journaliste à France Info, qui a fait un podcast terrible de réalisme, que moi j'ai écouté avec beaucoup d'attention et d'intérêt. Et je pense que effectivement, parfois peut-être les médecins sont maladroits, ou expliquent mal, ou disent mal, ou sont trop cash. Voilà, mais c'est bien un bouquin comme ça. Moi, je trouve ça génial, quoi.
Moi, je trouve qu'on en a peu en franco-belge, parce que les Japonais sont assez forts, en fait. Peut-être que j'en ai vu plus, mais à faire des bouquins sur certaines pathologies. Je pense par exemple à Mon couillon de cancer, qui est une autobiographie d'un mec qui se retrouve à avoir un cancer du pancréas et qui a personnifié son cancer et qui lui parle. Donc mais ça permet d'extérioriser, de comprendre aussi ce que peuvent vivre certaines personnes, et c'est plutôt intéressant.
Ouais, puis là c'est elle le prend avec humour. Enfin, on voit les graphismes, le dessin, là je vois le dessin de couverture de dos, elle est de dos, donc elle soulève son t-shirt, donc on peut supposer qu'elle montre ses seins. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'impertinent, et je trouve ça bien, moi. C'est vraiment bien.
J'aurais voulu être une petite souris, puis la suivre dans son vécu, voir comment ça a pu se passer. J'imagine que ça n'a pas toujours été ultra drôle, mais
je pense que c'est...
Si elle a un tiers de l'humour qu'on a dans ce bouquin-là, elle l'a vécu quand même plutôt bien. Un passage qui est plutôt rigolo, elle se fait faire une ponction, justement, pour voir s'il y a une tumeur, un truc qui est plutôt douloureux.
On appelle ça biopsie.
Une biopsie, ouais, pardon. Et du coup, elle revient avec un sein qui est énorme, bleu.
J'ai vu ça.
Et elle regarde et fait, si j'avais su, j'aurais fait faire les deux.
Mais oui, même en... Il y a un petit texte sur la rabat de la couverture, qui indique clairement que c'est une BD d'humour pour faire du bien, et même ça indique, spoiler, que ça finit bien.
Mais passe-le à n'importe quel mec ou à n'importe quelle nana. Je pense que ça, c'est un bouquin. Le format, en plus, est adapté à mettre dans n'importe quel cabinet de consultation.
Exactement.
Pour que les gens puissent se poser des questions. Lire 2-3 vannes, ça va vous donner envie de lire le reste et de comprendre comment ça se passe. Pour pousser encore plus loin, le côté hyper cool de cette BD, donc elle sort le 6 octobre, donc en pleine période Octobre Rose. Et pour chaque album acheté, il y aura 1 euro de reversé à l'association de lutte contre le cancer du sein. Donc, c'est plutôt...
Il y a des bonnes actions à faire.
Ouais. Donc, c'est intéressant pour se cultiver, c'est intéressant pour accompagner les gens qui en ont le besoin. Et puis, mettez-le à disposition, parce que...
Ouais.
Donc, c'est La boule au nichon de Evermarie, et c'est chez XP Éditions. Et il y a un caméo de Fabrice R dedans, si vous ne connaissez pas. Une autre BD, un autre sujet, pas forcément hyper simple. C'est adapté d'un roman que tu connais peut-être, La force des arbres.
De qui? Roman de qui?
Faudrait que je te redise de qui est le roman. D'après le récit d'Edouard Cortès. Non. Ça ne te parle pas?
Non.
Je vais vous le présenter tel que je l'ai lu. Donc, c'est d'Edouard Cortès, donc, au scénario, Dominique Mermoux au dessin, et c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Ça s'appelle Par la force des arbres. On suit un homme qui va se construire une cabane dans un arbre et va décider d'y passer une certaine période en abandonnant sa famille sur le côté pour lui se ressourcer. On sait pas. Au départ, moi j'ai trouvé que ce mec était hyper égoïste d'abandonner sa famille. Je savais pas pourquoi. Il nous donne quelques bribes d'indices, sans doute quelque chose qui s'est mal passé. Il a préféré grimper à l'arbre plutôt que d'utiliser l'arbre pour descendre. Au départ, le gars, je le trouvais plutôt antipathique. Et puis, plus on est dans cette introspection, ce moment où il est tout seul avec la nature, plus on se rend compte déjà qu'il a une chance formidable de se mettre juste au contact de la nature avec personne autour, pas d'électricité. L'eau, c'est de l'eau qu'il a été chercher au ruisseau d'à côté. Il a construit sa cabane, c'est un espèce de lieu de quiétude en pleine nuit. Alors quand il pleut, je vous assure qu'il est moins inquiet. Mais... Et petit à petit, on comprend son parcours de vie. Il élevait des brebis. Et puis, son côté éleveur, il y a eu plein de soucis, des maladies, des choses qui l'ont complètement plombé. Et il a eu besoin, en fait, de perdre pied avec la terre, mais en se remettant sur quelque chose qui le reliait complètement à la côté nature et organique pour se ressourcer. Et ce qui fait que plus on avance dans le bouquin, plus on éprouve d'empathie pour ce gars qu'au départ, moi, je trouvais vraiment pénible. Et c'est vraiment hyper intéressant. Alors, si vous aimez la nature, en plus, ça va vous plaire beaucoup parce qu'on a beaucoup de passages sur... la biologie qu'il peut trouver autour, sur les oiseaux qui vont venir, les types d'arbres, les feuilles. Vraiment, il s'est posé des questions sur son entourage pour essayer de ne faire plus qu'un avec son entourage. Et au final, on vit une belle expérience. On se rend compte que ce moment-là, c'était juste un moment dans sa vie, parce qu'il avait besoin de ça, besoin de laisser les gens autour. Il en avait quand même besoin, hein. Il y aura un ou deux passages où les gens vont venir quand même lui rapporter un peu de réconfort. Mais c'est une BD où on se dit, moi j'aimerais bien vivre ça. Est-ce que je serais capable de vivre ça aussi? Donc c'est hyper intéressant. En plus, le dessin, on est sur un dessin. Alors je suis nul toujours à trouver, mais on est sur de l'aquarelle, hein, si je ne me plante pas.
Oui, c'est de l'aquarelle, oui. Oui, c'est un travail à l'aquarelle. Hein.
C'est très beau, c'est très doux. Le sujet n'est pas forcément hyper doux parce que il y a du vécu, les passages qui sont justement en teinte sépia ocre, c'est des passages qui sont beaucoup plus durs, qui sont de ce qui s'est passé avant, et c'est hyper intéressant. Je sais pas ce que t'en as pensé, Richard, tu l'as feuilleté?
Je l'ai feuilleté, ça m'attire pas beaucoup, malheureusement.
Mais t'as le droit, hein.
Voilà.
Moi, je trouve déjà l'objet, on est plus près du roman graphique hein, que de la BD.
Ouais,
hein.
Oui.
On est à plus de 100 pages. Donc le travail, moi, je trouve que le travail est beau. Hein. J'aime bien moi la matière, en fait, la matière graphique, le pastel, l'aquarelle et tout ça. Moi, je trouve que c'est très beau. Les planches, je vois une planche qui vient de me passer sous les yeux, qui est magnifique. La planche, elle est complètement vide. Il y a juste un dessin qui a été reporté en bas à droite. Une biche, de toute évidence. Quelques arbres, quelques taches. Moi, j'adore ces paris un peu complètement fous, où la place est laissée complètement au lecteur. Il y a cette page-là, c'est un début de chapitre, on peut supposer. C'est vraiment magnifique. Le seul défaut du livre, parce qu'il en a un, c'est le côté flashy de la couverture. Je le trouve...
Je pense que c'est le couchage en fait de la couve, ouais, qui donne cet aspect-là.
Ouais. Je trouve qu'il est un peu violent. Le vert est un peu violent. Il me semble être un peu décalé par rapport à ce que tu nous en dis. Mais c'est un sentiment. Il faudrait bien entendu lire la BD. Le dessin est beau. Ce personnage assis sur une branche avec sa cabane fantastique, enfin c'est vraiment, et un oiseau en face. Mais le vert, moi il aurait tendance presque à me repousser un peu, quoi. Je le prendrais pas spontanément à cause de sa couleur, hein. Mais après, une fois qu'on le feuillette, parce que l'intérieur c'est vraiment c'est magnifique, quoi. Enfin moi je trouve ça magnifique, hein. Moi j'adore
peut-être
ça.
C'est peut-être l'impression qui donne cet aspect là.
Le plan de la cabane est magnifique.
Ah oui, j'avais pas vu, effectivement.
Ah bon, n'importe quel gamin a envie d'avoir ne serait-ce que la moitié de cette cabane-là.
Oui, oui.
Et même en tant qu'adulte, hein, oui. On va dormir là.
Même il a envie de l'idée de la cabane s'il peut pas l'avoir, mais déjà l'idée de la cabane.
Ouais.
Ouais, très beau.
Mais c'était une belle surprise. Je cache pas le fait qu'il a fallu que je me force pour le finir au départ. Mmh. Enfin, pour avancer dedans. Je donne toujours une grande chance à certains ouvrages. Parce que des fois il y a des bonnes surprises, les mauvaises surprises je vous en parle pas, donc soyez pas surpris. Mais une bonne surprise par la force des arbres, et puis on découvre la nature, on peut apprendre des choses sur la nature et sur soi, je pense. Une expérience sans doute à mener si vous avez des arbres et une cabane. Lisez-le si vous voulez tenter l'expérience.
Merci pour le conseil, hein.
De rien. On va parler d'un autre type de cabane. avec Plein ciel de, j'ai perdu les noms, Pierre-Roland Saint-Dizier et Michael Croza, publié aux éditions Ankama. Alors quand je dis un autre type de cabane, c'est une barre d'immeuble. Une barre d'immeuble qui va subir un événement tragique. À savoir un petit monsieur qui se jette par la fenêtre. Et on ne sait pas pourquoi il a fait ça. Et c'est le début d'une enquête. Alors, on n'est pas dans un polar, attention. Mais on va avoir tous les habitants qui vont se poser la question pourquoi ce petit retraité si tranquille a décidé de se défenestrer. Est-ce qu'il a été poussé? Est-ce que il y a quelque chose de plus? Et on va prendre la pleine conscience que cette barre d'immeuble, alors cette tour, parce que là c'est plutôt une tour, les barres est à côté. Pardon. C'est une fourmilière. Tout le monde se connaît, tout le monde a des avis, et ce simple fait va impacter beaucoup de personnes et leur façon de vivre au quotidien. Et j'ai pas vécu dans une tour, mais je pense que les gens qui ont eu l'occasion de vivre dans cette concentration de population vont y trouver tout ce qui c'est du vécu. De toute façon, c'est ce que dit l'auteur à la fin, tout ce qu'il y a dedans, les personnages, tout ça sont inspirés en fait de personnages de son quotidien, de son vécu. Il y en a qui l'a mixé ensemble, la petite dame qui a un logement qui est complètement rempli de plantes, à quel point qu'on croit une forêt. C'est ultra vivant. Et on a envie de rencontrer tous ces personnages là. Il y a quelques histoires plutôt tragiques puisque c'est pas une histoire hyper joyeuse à la base. Mais faut y aller. Et ça passe très très bien. Donc il y a quelques cases en fait, quelques planches qui vont redécouper en fait en vue de coupe l'immeuble où on va voir chacun des logements qui vit. Mmh. Et en plus, c'est très joli. Oui, aquarelle aussi de toute façon, du coup.
À la fin, il y a quelques pages qui indiquent effectivement que l'auteur a vécu à Mulhouse, en Alsace, et que ça Mulhouse, vient de son quartier.
C'est le quartier Saint-Nicolas.
Je sais pas, c'est pas indiqué. Dans la tour de 22 étages où j'habitais.
Oui, mais je pense que c'est pas Saint-Nicolas. Je connais Mulhouse, hein, j'ai vécu à Mulhouse. C'est entre le quartier de Rouault, qui était un quartier plutôt de bas d'immeubles, et le quartier Saint-Nicolas. J'ai oublié le nom, mais c'est pas grave.
Mais il y a des photos, peut-être que ça.
Après, c'est hyper intéressant. Oui,
je vois tout à fait, je connais. Ah ben, je suis pas dépaysé. Hein. Je suis pas dépaysé. C'était un quartier assez dur, hein. Quartier même très dur. Hein. C'était le quartier du Drouot était déjà bien compliqué, mais celui-là aussi parce que c'était un quartier nouveau. Quoi. Enfin, ouais. Alors c'est intéressant hein, cette bande dessinée. Donc c'est publié par.
C'est chez Ankama.
C'est Ankama.
Ankama. Oui. Donc Dofus.
Oui.
Voilà, l'incontournable Dofus. Ce qui est étrange dans le développement de ce studio au départ, puisque c'est vraiment un studio de production de jeux, c'est toutes les ramifications qui ont commencé à se développer. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que on était moi. Alors, il s'avère que j'ai plein de vie, hein, comme les chats. Donc, j'ai aussi vécu pendant un certain nombre d'années à côté de Roubaix, donc là où Ankama est installé, avec toute son université, ses machins, ses trucs, enfin ce gigantesque, ce truc qui est devenu gigantesque. Et j'avais une résistance par rapport à Ankama parce que j'étais resté sur le jeu vidéo qui est pas ma tasse de thé, je l'avoue. Et donc je pensais pas que ces développements qu'ils allaient prendre, ces ramifications qu'ils allaient créer, prendraient ce niveau-là. Et là, on est face à un bel objet. Hein. À nouveau, beau papier, beau graphisme, enfin un vrai travail, vraiment un vrai travail que je trouve très très beau. C'est une belle surprise. Ouais.
Ce qui est rigolo, c'est qu'on n'a pas les mêmes surprises en fait, parce que moi du coup, la partie BD dans Kama, je l'ai suivie presque depuis ses débuts avec Maliki, Florent Maudou, le label 619, qui est passé chez Rue de Sèvres, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est surtout en fait la thématique de l'album, parce qu'on était surtout sur des aventures, des choses fantastiques, et là on est sur quelque chose qui est très terre à terre.
C'est du vécu.
C'est du vécu, chose que j'avais pas l'habitude. Alors j'ai pas feuilleté le catalogue complet, mais pour moi c'est plutôt quelque chose d'assez exceptionnel chez Ankama d'avoir ce type d'album. Après, la qualité, on reprend certains albums où il y a des choses qui sont très très bonnes. Mmh. Moi, je reste sur le Freak Squeal ou Funérailles, par exemple, où on a des albums qui sont d'une qualité assez exceptionnelle. Et donc, voilà, si vous ne connaissiez pas Ankama, allez-y, il y a plein de bonnes choses, des choses qui arrivent à nous surprendre même maintenant. Et puis, si vous avez vécu dans un immeuble, bah, plein ciel, ça devrait vous parler. C'est une histoire à la fois tragique et émouvante. Il y a plein d'émotions qui vont vous passer à travers le corps quand vous allez lire ça. Mais n'hésitez pas, c'est un beau bébé, c'est plutôt sympa. Et c'est de Pierre-Roland Saint-Dizier et de Michael Croza, et ça s'appelle Plein ciel. Je ne vais pas refaire de pause musicale parce que sinon on ne va pas avoir le temps de tout parler, parce qu'on parle beaucoup et ça passe vite. Mais du coup, je vais quand même faire une pause en laissant la parole à Fabien Bulcourt, qui est du coup le gérant de Manga Kissa, le café manga, et qui ce soir nous parle d'un manga qui s'appelle Oneira.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du manga Oneira, l'enfant cauchemar. Alors Oneira, c'est édité chez Kana, dans la collection Dark Kana. C'est un seinen sorti en 2022. Donc c'est tout récent, et ce n'est pas un manga japonais, on est sur un manga italo-français. Au dessin, nous avons Dimeo Federica, et au scénario, nous avons un français qui s'appelle Cab. Donc on est sur un titre de dark fantasy, aventure, suspense. Clairement, moi je vais vous le dire tout de suite, donc c'est en 3 tomes pour l'instant. Le 4e va sortir en novembre, et on est sur une œuvre que j'aime beaucoup. Donc de quoi ça parle Oneira? Donc je vais vous faire le petit synopsis. Donc nous sommes sur les territoires de la couronne. L'église assoiffée de pouvoir se lance dans une croisade sanglante contre les monstres des songes. Au milieu des affres à l'aube de la guerre, Arané, Eos, la célèbre chasseuse de cauchemars tristement surnommée le Croque-Mitaine, devra faire face aux inquisitions souhaitant renverser sa caste tout en protégeant l'accablant secret. Alors, du coup, on est vraiment sur une ombre, sur une œuvre très sombre de dark fantasy. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. On n'a déjà pas beaucoup de titres de dark fantasy en manga, même si c'est vrai que pour l'instant, on n'a que 3 tomes. Moi, je les ai vraiment dévorés. On retrouve une ambiance sombre, pesante. On ressent des inspirations de l'auteur pour des œuvres comme Berserk ou encore The Arm Peddlers, pour ceux qui connaissent. Malheureusement, œuvre qui, à mon grand désarroi, est en pause depuis plusieurs années. Et on peut aussi, si on sort un peu du manga, retrouver dans cette série des airs de la série The Witcher, dont l'univers s'en rapproche beaucoup. On a vraiment un scénario au top, avec une héroïne très puissante mais hyper sombre, avec cette chasse au cauchemar, avec des traits magnifiques, et une héroïne dont on sent les failles aussi, avec une histoire très compliquée avec sa fille, qui est vraiment le centre au final de l'histoire, dont je parlerai pas plus pour pas spoiler. Et on a vraiment cette impression de ressentir l'univers, d'être imprégné avec eux, et c'est vraiment hyper bien. En plus d'avoir un scénario vraiment au top, on retrouve vraiment des dessins très beaux. Vraiment, Federica a un trait magnifique. On ressent une patte un peu féminine dans le dessin, je sais pas trop pourquoi, mais vraiment, on a quelque chose qui colle parfaitement à l'univers. Donc, vous aurez compris, pour moi, cette série, je la valide complètement. Il faut absolument la découvrir, car pour moi, elle manque vraiment de visibilité. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, on n'en voit pas beaucoup passer, et elle mérite vraiment beaucoup plus d'être dans la lumière. Après, j'en entends certains qui vont dire « Oui, mais c'est un manga, mais c'est pas japonais. » Sincèrement, on a vu, d'ailleurs, avec d'autres œuvres de mangaka français, qui fonctionnent vraiment très très bien en ce moment, et il n'y a pas de raison. C'est vraiment, il faut pas s'arrêter à ça. Si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas à venir le tester au magasin, juste pour le lire quelques tomes, et après je suis sûr que vous serez conquis et que vous irez acheter toute la suite. Donc sincèrement, allez-y, de la dark fantasy, un monde très sombre, une histoire au top et des dessins magnifiques. Que dire de plus? Sincèrement, foncez. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite vraiment une bonne fin d'émission et je vous retrouve dans 15 jours pour une prochaine chronique. À plus.
Merci Fabien, de nous avoir fait cette chronique à distance. Au passage, bah, s'il n'est pas là, c'est que c'est son anniversaire ce soir, donc on lui souhaite un bon anniversaire.
Happy birthday.
Bon anniversaire.
Puis si vous voulez lui faire plaisir, allez le voir directement à Manga Kissa. Et puis si vous avez envie de lire Oneira, bah, il l'a là-bas, donc c'est aussi l'occasion de pouvoir le découvrir là-bas. En tout cas, moi, je connaissais pas du tout graphiquement ce que ça donnait. Et, j'ai parcouru un petit peu et j'y trouve des petits airs de Castlevania, côté vampire un peu baroque rococo. Et j'avoue que je suis plutôt curieux maintenant. Il va falloir que je lui emprunte. Je vais vous parler moi de d'un petit peu de manga. Là, j'ai mon casque qui me joue des tours avec un manga qui m'a énormément plu. J'ai une passion. J'aime bien me poser des questions sur comment les gens communiquent entre eux. Et ça tombe bien, il existe un manga qui parle un peu de ça, qui s'appelle Heterogenia Linguistico. Alors là, j'ai 3 tomes actuellement. C'est pas fini encore. Je ne sais plus en combien de tomes c'est prévu. En gros, l'histoire. Tiens, je te les passe, Luc. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui va être obligé de remplacer son maître au pied levé. Son maître étant un expert en linguistique, mais un expert en linguistique auprès des monstres. Donc, son maître, il va à la rencontre de monstres tels que nous on les connaît, à savoir des loups-garous, des trolls, des gobelins, des dragons, des choses comme ça. Et il essaie de parler leur langage et de comprendre comment fonctionne leur langage. Et c'est hyper intéressant parce que je suis rôliste et ce que je trouve génial c'est que dans les jeux de rôle on te dit bah toi tu parles le draconique, toi tu parles le machin, et les gens quand ils parlent la même langue ils arrivent à communiquer, ils sont pas de la même espèce, des fois ils sont pas juste équipés pareil. Un loup il va pas pouvoir faire certains trucs en déglutition ou en parole pour parler certains mots humains. Et ben là c'est typiquement retranscrit, on a des différences de langage et différences de monstres qui ont tous des langages qui leur sont propres avec des possibilités. Et c'est là qu'on se rend compte que communiquer, c'est pas juste la parole. On a les loups-garous qui vont aussi communiquer avec leurs odeurs. On a des harpies qui vont communiquer avec des mouvements de tête. Et tout ça, eh ben, d'autres espèces vont être capables de les comprendre ou sont obligées de passer par une espèce intermédiaire pour arriver à comprendre ce que va dire l'autre. Et ça marche trop bien, en fait. Moi, je trouve le concept juste absolument génial. On essaie de nous... Alors, c'est là où il y a une petite difficulté, c'est qu'on essaie de nous retranscrire aussi la difficulté à comprendre certaines discussions que peut avoir le héros avec d'autres personnes. Donc, du coup, on nous masque des mots. On les écrit d'une manière un peu bizarre pour qu'on les lise un peu moins bien. Et moi, je trouve ça génial parce que le héros s'embarque là-dedans et va vraiment essayer de comprendre sur les recommandations de son maître. Alors, il a un petit guide. Son maître lui a donné quand même quelques astuces pour éviter de le perdre complètement. Mais c'est vraiment super bien. Le concept est génial.
L'irruption des sciences sociales dans le manga, oui, c'est quelque chose d'assez surprenant. Enfin, tel que tu le racontes, ça a l'air assez surprenant. Moi, dès que tu parles de langage et autres, moi, je pense au livre de Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire. Bon, donc ça nous renvoie à la sociologie, mais là je trouve ça vraiment. L'argument du livre, ça s'appuie sur des théories ou sur les théories du langage ou sur des choses comme ça, ou c'est vraiment une œuvre d'imagination, enfin simplement un pari.
J'ai pas le détail. Je peux pas te dire. Tout ce que je sais, c'est que il se base sur des choses mécaniques, physiques. Qui globalement sont très logiques. Quand il nous parle d'un oiseau type harpie qui va justement communiquer avec des loups-garous, bah on sait que l'harpie elle a pas de lèvres pour former certains mots, donc il va dire bah ces choses-là, elle est incapable de le prononcer, donc elle utilise d'autres choses pour faire passer certains sentiments. Et c'est, je pense qu'il a dû se renseigner en fait pour avoir quelque chose de crédible. Mais j'ai pas d'infos spécifiques dessus.
Non, mais c'est une exploration intéressante, hein, parce que c'est effectivement des questions qu'on se pose nous-mêmes au quotidien, même en étant en relation avec des gens qui causent comme nous, mais qu'on comprend pas parce qu'il y a des modalités différentes de penser, des références différentes. Moi, je trouve ça vraiment, c'est là aussi, ça donne envie de lire parce que c'est des champs qui m'intéressent un peu et je trouve ça, tel que tu le racontes, c'est vraiment passionnant. Ouais.
Et ce n'est pas que passionnant, c'est en plus drôle puisqu'ils se prêtent volontiers au jeu pour essayer de s'intégrer. Les loups-garous, par exemple, ils ont l'habitude de se lécher le visage les uns des autres. Donc pour se faire intégrer dans la tribu qu'il va, il va commencer lui à lécher le visage de tout le monde, donc il se retrouve avec des poils partout parce que ça colle. Mais c'est ultra drôle.
Ouais, pour te répondre, Seb, donc j'ai fait des petites recherches. Il y a 5 tomes qui sont sortis. C'est japonais, j'imagine.
Au Japon, oui.
Au Japon, ouais. Oui. Et 3 en France pour l'instant.
Bah 3, ça je savais, en France, c'était sûr.
Mais 5 pour l'instant et c'est toujours en cours.
Ok.
Ok. Et j'aime beaucoup en fait ce style de manga puisque en fait c'est divisé en chapitres et chaque chapitre c'est des histoires qui, enfin. C'est divisé en épisodes qui pourraient tenir sur une page. À chaque page, en fait, il y a un titre.
C'est ce que t'as au départ, ouais. En fait, t'as vraiment un titre par page qui te donne un peu le contenu de la page que tu veux lire.
Mmh. Ça fait très, comment dire,
documentaire.
Petite BD, tu sais, de magazine, en fait.
Oui. Non, strip, ouais.
Ouais, strip ouais. D'une page entière, tu vois. Mmh. Et ça me parle ce genre de format. Et au contraire, l'idée est trop cool, le fait de pas juste avoir eu une aventure de fantasy, tout ça, c'est vraiment quelqu'un qui s'arrête et qui, de ce que je vois,
c'est de la tranche de vie. Hein.
Essaye de comprendre ces animaux fantastiques, j'ai envie de dire, ces créatures. Non, c'est cool, c'est trop cool.
Bah écoute, je vais juste redonner, je te laisse redonner les références.
Ouais.
Parce qu'on va arriver sur la fin de l'émission, on va pas faire.
Donc c'est la première fois que je le fais, tu me dis si je me trompe.
Vas-y.
Donc l'auteur, Salt Senno, et c'est édité chez Nobi Nobi.
Et c'est le manga s'appelle.
Et le manga s'appelle Heterogenia Linguistico.
C'est tout à fait ça. Avec le tome 3 est sorti très récemment.
Avec en chapeau études linguistiques des espèces fantastiques.
L'anthropologie, le terme est barbare, mais des espèces fantastiques, je trouve ça assez un pari assez osé. Ouais.
Ouais, mais je trouve ça trop cool. C'est original. C'est très original comme idée.
That's all, folks. Et oui, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui annonce la fin de l'émission. Vous pourrez retrouver dans quelques instants le podcast de l'émission sur le www.radio-g.fr, onglet La Case de Seb. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles lectures. Et en attendant, n'oubliez pas de lire, il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Il est parfaitement ici!
Juste en! Les touristes de bord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi? Mais c'est fini! Rentre chez toi! That I forgot about the dark.
I was so tired. www.radiocristal.fr.